Je possède des...
Ah non! Pardon. En fait, faut que je désactive manuellement les alertes après les avoir lancées, parce que si je les désactive pas, à chaque fois que je change de scène, ça... Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Merci, top. Compliqué la vie. Ah là, fou là, si tu savais. T'as réparé toi l'alerte pendant ce temps-là? Comment ça va? Oh et oh. En plus, c'est bizarre parce que sur mes... Attends, on va régler ça. Parce que sur ma collection de scènes du The Event, ça marche. Tu te souviens, ça marchait pendant le The Event. Non, c'était... Non. Attends. Ah non. Y a plus... J'ai plus du tout mes scènes The Event. Oh merde. Ah mais non, mais c'est normal, c'est parce que je l'avais installé sur le PC là-bas. Je sais plus. Ça marchait pendant le The Event, ça marche plus. Ah, ce qui compte, c'est le The Event. Ce qui compte, c'est la planète. Peut-être que le problème, c'est toi après tout. Sans doute, sans doute. Pepcac, évidemment. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Installez-vous confortablement. Ça va? Je me suis pris un savon au boulot hier, donc ça m'a déprimé. Oh non, c'est nul les salons. Les savons. Courage à toi, t'inquiète, t'es quelqu'un de bien. On s'en fout, ton patron est un con, de toute façon. Ton boss est un con, voilà, on le sait, hein. On va parler de quoi ce soir? Je sais pas. Petit stream détente, tranquille. Moi, je propose qu'on joue avec ChatGPT parce que j'ai passé une partie de la journée à jouer avec. Mais sinon, on peut se raconter plein de trucs. On attend la réforme des retraites. Ah, c'est la waiting room de la réforme des retraites. C'est dans 4 jours. Dans 4 jours, mesdames et messieurs, nous connaîtrons la réforme des retraites. Tiens, d'ailleurs, j'ai été interviewé par Libération. J'ai été interviewé par Libération. Ils vont sortir un papier la semaine prochaine. Comment on intéresse les jeunes à la réforme des retraites? Comment je fais pour vous intéresser à la réforme des retraites? Est-ce que vous trouvez que je l'explique bien? Sachant que je ne sais pas ce qu'il y a dedans encore. Est-ce que tu vas stream des séances de la réforme? Je pense, ouais, je pense. On verra, on verra. Je ne sais pas encore si ça va être 49-3 ou pas et tout. Ça va dépendre. On verra. Les propositions du plan santé, ça a donné quoi? Ah, j'ai pas lu. Oui, cet après-midi, Emmanuel Macron a fait ses vœux aux professionnels de la santé. Ça a été l'occasion pour lui d'annoncer des trucs dans la santé. L'hôpital, les urgences, tout ça. J'ai pas lu les articles. Je ferai ça ce week-end. Ça dépend, c'est quoi jeune? S'en branle. Quand on est jeune, c'est pour la vie, comme disait Clémenceau. Je crois que c'est Clémenceau qui disait ça. Toi aussi, tu veux savoir comment traire Mintos? Je me suis toujours demandé. Non, mais ouais, donc du coup, voilà, il y a un journaliste de Libé qui m'a dit, mais est-ce que les jeunes, ils s'en foutent des retraites ou est-ce que c'est un cliché? Je lui ai répondu, ils s'en branlent. Les jeunes, tout ce qui les intéresse, c'est TikTok, Instagram et Facebook. Merci pour les 5 subs offerts au chat!
Je possède des thunes. Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas. Mes affaires marchent en ce moment.
Merci beaucoup, merci. C'est très généreux, merci Thomas Yem. Les jeux vidéo, ouais, les jeux vidéo. Ah non, mais les jeunes, de toute façon, ils veulent fumer du hackick. Et jouer au Meuporg. Il n'y a que ça qui les intéresse. Non, je sais pas, c'est jusqu'à quel âge qu'on est jeune. C'est jusqu'à... on définit comme on veut, hein. On peut dire que la jeunesse, ça s'arrête au moment où on a acquis une stabilité familial et professionnel. Voilà. Dans la trentaine en général. C'est vrai que de nos jours, dans la saucisse dans laquelle on vit, on est jeune plus longtemps parce que la jeunesse est une période de précarité de situation. 250 balles! Merci beaucoup pour les 250 balles. Précarité de la situation qui fait que entre les études et l'installation professionnelle et familiale, il peut y avoir jusqu'à 10 ans. Donc on peut aller jusqu'à 35 ans, il y a des gens qui peuvent aller jusqu'à 37, après ça sert plus à grand-chose de voilà. Mais sinon, on peut aussi décider que la jeunesse, ça s'arrête à la fin du cycle secondaire d'éducation, donc au bac, ou alors que ça s'arrête à l'âge moyen de la fin des études supérieures. Bac plus 3, bac plus 4, un truc comme ça. Ou alors au premier job, enfin je sais pas, ou alors à l'autonomie financière, économique. Ou alors plus jeune. Vers 12-13 ans, quand on couche avec son oncle pour la première fois. Ah non, non. Non, puis en plus, c'est vraiment pas drôle. Quand on est propriétaire. Ah. Aïe. Ah, faut demander à ChatGPT. Mais c'est vrai, ça? Attends. J'ai pas encore le réflexe de lui demander toutes les questions débiles qui me passent par la tête. ChatGPT. Alors, on va réouvrir ChatGPT. Hop. Hop. Ah, sachant que j'ai rajouté une fonctionnalité qui fait qu'on peut lire maintenant en audio ChatGPT. C'est une extension de navigateur. Qu'est-ce qu'un jeune au sens politique du terme? Mais c'est rien de particulier, la politique n'a pas besoin de définir ce que c'est que la jeunesse. Jeune, c'est pas une catégorie politique ou juridique, hein. Juridiquement, ça ne veut rien dire jeune. Les juristes, ils ont enfant. Ils ont majeur, ils ont sous tutelle, sous curatelle, il y a des statuts juridiques qui existent, mais jeune, ça ne veut rien dire. Jeune, c'est une catégorie sociale, sociologique, médiatique, psychologique, c'est d'autres choses, mais juridiquement, il n'y a pas besoin de définir jeune, c'est pas nécessaire. C'est quoi enfant? Au sens du droit international, enfant, c'est une personne majeure selon les lois du pays dans lequel il réside. Ce qui, en fait, pose des problèmes, enfin, pose des questions. Parce qu'il y a des pays qui, pour justifier la peine de mort, notamment pour les enfants, ont un artifice juridique qui s'appelle le crime majeur. Mineur. J'ai dit quoi? J'ai dit majeur? Non, mineur. Excusez-moi, pardon. Vous avez compris, quoi. Il y a des pays qui s'amusent à dire que quand un enfant, donc mineur, commet un crime d'une particulière gravité, il se rend adulte. De par la gravité de son crime, et que donc par conséquent il peut être jugé comme un adulte. Et ça, c'est une technique qui est utilisée pour justifier la condamnation à mort, notamment des enfants, dans les pays qui pratiquent encore la peine de mort pour les enfants. Voilà. Les USA. Certains États des USA, ouais. Certains États des USA utilisent ce type d'argument en disant que. Un mineur ne peut pas bénéficier de la protection juridique dont bénéficient les mineurs, compte tenu du crime qu'il a commis. Ce qui, du coup, n'a plus aucun intérêt, du coup, de créer des catégories juridiques, hein. Si par ton simple comportement, tu peux t'en extirper. C'est arrivé relativement récemment, ce genre de drame. Je sais pas, je ne suis pas. Activement le droit pénal américain, mais oui, les États-Unis font partie des pays qui n'ont pas ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant, notamment parce qu'un certain nombre de leurs juridictions nationales, des États américains, certaines d'entre elles continuent à prévoir la peine capitale pour les mineurs. Du coup, attends, ChatGPT. Jusqu'à quel âge est-on jeune? Alors, il est en train de répondre. Et je peux vous lancer la lecture audio.
Ok. Le niveau d'énergie. Les
Hein?
responsabilités.
Ah non. Ah oui, non, non, non. Non, il était en train de lire au fur et à mesure. Attendez. Mais comment je fais pour le relancer? Ah ok, je dois relancer la réponse et ensuite je cliquerai sur le truc pour qu'il lise. C'est ChatGPT ou Tchat J'ai fumé? Les républicains US protègent les enfants jusqu'à la naissance, après ils peuvent crever la gueule ouverte dans le caniveau sans que ça les dérange. Ouais. Et comment je fais pour relancer? Parce que du coup, j'ai installé une... Voilà. Je relance. C'est quoi la barre orange et bleue en haut de l'écran? Ça, putain, faut que je l'écrive. C'est Baxit. C'est le financement de Baxit. Merci pour vos dons d'ailleurs. Attendez, faut que je règle la taille de la police. Oh là là, oh là là, je me fatigue. J'ai envie de crever. Putain, j'arrive pas à y toucher. Allez, hop, ça dégage. Hop. Putain, mais... Oh là, qu'est-ce qui m'arrive là? Il est nul ce stream. Attendez, attendez, bougez pas. Soyez entertainés quand même. Regardez, c'est vachement intéressant. Ouh là là, ah là là, oh là là, la politique, Jean Massier. Oh là là, putain, mais je suis nul. Et j'arrive même pas à trouver comment je fais pour ajouter du texte. Mais je vais crever. Mais, texte. En exclamation backseat. Voilà. Et je le mets là. Voilà. C'est tout ce que je voulais faire. C'est vraiment. C'est tout ce que je voulais faire. Je demande le remboursement du stream. Attendez, attendez, partez pas. Je me suis rarement autant marré que sur ce stream. Arrêtez de me bolosse. On écoute du coup la réponse de ChatGPT. Jusqu'à quel âge est-ce qu'on est jeune?
Ok. Indépendamment de l'âge.
D'accord. Je lui dis d'accord.
Je suis content que cette réponse vous convienne. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me poser. Je ferai de mon mieux pour vous aider.
Alors attends. Peux-tu répéter la réponse, s'il te plaît? Non. Putain. C'est vrai, ça qui est estimé à 36 milliards de dollars. De quoi mon stream? Ah oui, ça c'est sûr, au moins, surtout le stream d'aujourd'hui.
Ok. Il n'y a pas vraiment de définition précise de l'âge à partir duquel on n'est plus considéré comme jeune. Cela dépend de nombreux facteurs, tels que votre état de santé, votre mode de vie, votre niveau d'énergie et votre façon de penser.
Ah.
Certains considèrent qu'on est jeune jusqu'à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte,
Merci.
tandis que d'autres estiment que l'on peut être jeune à n'importe quel âge tant que l'on a une attitude positive et une approche active de la vie. En fin de compte, c'est à chacun de déterminer jusqu'à quel âge il se sent jeune.
Du coup, est-ce que vous avez une attitude positive et une approche active de la vie?
En tant qu'IA, je n'ai pas d'attitude ni de mode de vie. Mon objectif est de fournir de l'information et de l'aide aux personnes qui me posent des
J'avais
questions.
pas compris.
Je
J'avais pas
fais
compris qu'il avait un
confiance
micro en
aux
fait, que du coup
partenaires
il écoute mon
d'aujourd'hui
micro et du coup il a tapé la question.
et j'essaie de me baser sur des faits et des connaissances fiables pour répondre aux questions que l'on me
Du coup
pose.
là il est en train de répondre à ma
Si
question.
vous avez besoin
Est-ce
de
que t'as une
conseils
attitude
ou d'aide pour
positive?
résoudre un problème ou prendre une décision, n'hésitez pas à me poser une question. Je ferai de mon mieux pour vous aider.
Pas parler trop fort parce que ChatGPT il m'écoute et du coup il se prépare à taper la question que je vais lui poser. Du coup, je lui demande quoi? Est-ce que tu penses utiliser ChatGPT pour bosser certaines actus de Brexit? Ah ouais. Quel sujet me conseilles-tu d'aborder? Attends. Quel sujet me conseilles-tu d'aborder? Mais non, mais du coup, il sait.
Je ne suis pas en mesure de vous conseiller sur un sujet en particulier. Mais si vous avez un sujet en tête et que vous souhaitez en savoir plus dessus ou obtenir de l'aide pour résoudre un problème lié à ce sujet, n'hésitez pas à me poser une question. Je ferai de mon mieux pour vous fournir les informations et l'aide dont vous avez besoin. Si vous n'avez pas de sujet précis en tête, vous pouvez me demander de vous suggérer des idées de sujets à aborder. Je serai heureux de vous aider à trouver quelque chose qui vous intéressera.
Quels sont les sujets que tu me conseilles d'aborder pour la première émission de la deuxième saison de Backseat qui reprend la semaine prochaine?
Je ne suis pas en mesure de vous suggérer des sujets d'émissions de
De
télévision ou de
quoi?
radio, car je ne dispose
Télévision!
pas de suffisamment d'informations sur votre émission ou sur vos préférences en matière de contenu. Si vous cherchez des idées de sujets à aborder dans votre émission, je vous recommande de prendre en compte les intérêts de votre public cible et de tenir compte des tendances actuelles dans votre domaine d'expertise. Vous pouvez également consulter les journaux, les magazines et les sites d'actualité pour trouver des sujets d'actualité qui pourraient intéresser votre public. N'oubliez pas de vous assurer que les sujets que vous choisissez sont pertinents et de qualité, et de vous assurer que vous disposez de suffisamment de temps et de ressources pour les traiter de manière approfondie dans votre émission.
Backseat est une émission d'actualité politique qui traite des différents sujets du moment en matière politique en France. Alors ça t'embouche un coin, hein? C'est pourquoi il réfléchit. Est-ce que ça sert à quelque chose que nous floudions le CNC de mail? Ah non, sûrement pas, non. Non, non, ah, oula, non. Ah oui, vraiment, il réfléchit, hein. Il va me faire comme tout à l'heure, il va planter. Ah non, mais là, il réfléchit en boucle, hein. Là, vraiment,
Dans
je...
ce cas,
Ah.
il peut être utile de
Un peu loin la
consulter
détente,
les
hein.
journaux, les magazines et les sites d'actualité pour trouver des sujets
Ouais,
d'actualité
bon,
en
c'est de la merde, quoi.
matière de politique qui pourraient être pertinents pour votre émission. Vous pouvez également vous renseigner sur les différents partis politiques et sur les personnalités
Oui,
politiques importantes
je vais
en
me renseigner.
France,
Je vais me renseigner.
et essayer de trouver des sujets qui les concernent. Si vous souhaitez traiter de sujets plus spécifiques, comme les politiques publiques ou les lois en cours de discussion, vous pouvez consulter les sources officielles, comme le site internet du gouvernement français ou les documents de travail des parlementaires. N'oubliez pas de vous assurer que vous disposez de suffisamment de temps et de ressources pour préparer votre émission de manière approfondie et de présenter les sujets de manière équilibrée et objective.
C'est quoi la navette parlementaire?
La navette parlementaire est une étape du processus législatif en France. Elle se produit lorsqu'un projet de loi
Je
ou
suis
un
déçu
texte
parce qu'il y a
adopté
quelqu'un
par
sur
une
Twitter
chambre du
qui m'a
Parlement
envoyé. Il a posé la
conformément
question
à
c'est quoi la navette parlementaire à
l'article
ChatGPT, il a répondu n'importe
1er
quoi.
par
Il a dit que
l'autre
c'était un
chambre
véhicule
avant
qui permettait de se
d'adopter le
déplacer dans
document
Paris.
adopté ou rejeté. Voici comment fonctionne la navette parlementaire en général. Un projet de loi ou un texte est déposé au Parlement et est examiné par une commission spécialisée de la Chambre concernée. Si la commission est favorable au texte, celui-ci est soumis au vote de la Chambre. Si le texte est adopté par la Chambre, il est envoyé à l'autre chambre du Parlement pour être examiné. L'autre chambre examine le texte et peut l'adopter tel quel,
Ah, il a compris qu'on parlait de
le
politique.
rejeter ou y apporter des modifications. Si le texte est modifié par l'autre chambre, il doit être renvoyé à la première chambre pour examen. Si les deux chambres ne
Oh, je
parviennent
sais.
pas à se
Attendez, j'ai
mettre
une colle.
d'accord sur le texte, une commission mixte paritaire peut être mise en place pour trouver une solution. Si le texte est finalement adopté par les deux chambres, il est signé par le président de la République et devient une loi. La
Ah oui, c'est
navette
parce que j'ai parlé de
parlementaire
politique
est donc
avant,
un
ouais.
processus qui permet de s'assurer que les lois adoptées en France ont été examinées de manière approfondie et sont le résultat d'un consensus entre les deux chambres du Parlement.
Dans la Ve République française, le président de la République a-t-il le droit de déclencher un référendum avec l'article 11 de la Constitution pour modifier la Constitution?
Oui. Dans la Constitution française de la Ve République, le président de la République a le droit de déclencher un référendum dans certaines conditions. Selon l'article 11 de la Constitution, le président peut demander au peuple de se prononcer sur une question relevant de sa compétence ou sur une question d'intérêt national. Voici comment fonctionne le référendum dans la Ve République. Le président de la République peut décider de soumettre une question à un
Demeurant, c'est pas vrai hein,
référendum
ce qu'il
dans les
dit.
cas suivants. Si la question concerne l'exercice de ses prérogatives, par exemple, la dissolution de l'Assemblée nationale. Si la question concerne une modification de la Constitution. Si la question concerne une ratification d'une décision prise par l'Union européenne. Le président de la République doit alors obtenir l'accord du Conseil des ministres et du Conseil constitutionnel avant de déclencher le référendum. Le référendum est organisé par le gouvernement et est ouvert à tous les électeurs français inscrits sur les listes électorales. Si la majorité des votants est favorable à la question soumise au référendum, celle-ci est adoptée. Si la majorité des votants est contre, la question est rejetée. Il est important de noter que le référendum n'est pas un outil fréquemment utilisé en France. car il est considéré comme un moyen de dernier recours pour résoudre les problèmes politiques. Cependant, il peut être déclenché dans les cas mentionnés ci-dessus si le président de la République le juge nécessaire.
Pourtant, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution l'utilisation de l'article 11 pour modifier la Constitution. Il réfléchit.
Oui, c'est exact.
Donc.
En effet, le Conseil constitutionnel a jugé à plusieurs reprises que l'utilisation de l'article 11 de la Constitution pour modifier la Constitution était contraire à la Constitution. Selon le Conseil constitutionnel, l'article 11 de la Constitution ne peut être utilisé que pour soumettre à référendum des questions relevant de la compétence du président de la République, comme la dissolution de l'Assemblée nationale ou des questions d'intérêt national. Il ne peut pas être utilisé pour modifier la Constitution elle-même. Pour modifier la Constitution, il faut suivre la procédure prévue par l'article 89 de la Constitution, qui prévoit que les projets de révision de la Constitution doivent être adoptés par les deux assemblées du Parlement, Assemblée nationale et Sénat, et être soumis à référendum si le président de la République le demande ou si un cinquième des membres de l'une des assemblées le demande. En résumé, l'article 11 de la Constitution ne peut pas être utilisé pour modifier la Constitution, mais il peut être utilisé pour soumettre à référendum des questions relevant de la compétence du président de la République ou des questions d'intérêt national.
Pourtant, Charles de Gaulle a utilisé l'article 11 en 1969 pour organiser un référendum de révision de la Constitution. Avait-il le droit? Ah, mais non, il n'y a pas.
En effet, Charles de Gaulle a effectivement utilisé l'article 11 de la Constitution pour organiser un référendum de révision de la Constitution en 1969. Cependant, cette utilisation de l'article 11 a suscité de nombreux débats et a été contestée par certains.
Et là, il s'est arrêté parce qu'il a planté. Et je vous jure que c'est vrai, regardez. Il a planté. Network error. J'ai fait planter ChatGPT encore. Si je fais regenerate. Ah.
Je possède des tu. Je possède des tu.
Non!
Network Error dirait que cette utilisation de l'article 11 était contraire à la Constitution.
Ah, voilà.
Le Conseil constitutionnel a finalement tranché cette question en 1979. Lorsqu'il a jugé que l'utilisation de l'article 11 de la Constitution pour modifier la Constitution était contraire à la Constitution. Depuis, le Conseil constitutionnel a confirmé à plusieurs reprises cette interprétation de l'article 11, qui ne peut donc pas être utilisé pour modifier la Constitution. Il est important de noter que l'utilisation de l'article 11 par Charles de Gaulle en 1969 a été très controversée et a suscité de nombreux débats en France.
Ben voilà.
Cependant, le Conseil constitutionnel a finalement tranché la question en 1979 et a clarifié que l'article 11 ne peut pas être utilisé pour modifier la Constitution.
Donc le président de la République n'a pas le droit d'utiliser l'article 11 pour modifier la Constitution.
Oui, c'est exact. Selon l'interprétation actuelle de l'article 11 de la Constitution par le Conseil constitutionnel, le président de la République n'a pas le droit d'utiliser cet article pour modifier la Constitution.
C'est chiant. Hein.
Selon le Conseil constitutionnel.
On peut le faire avancer plus vite?
L'article 11 de la Constitution ne peut être utilisé que pour soumettre à référendum des questions relevant de la compétence du président de la République, comme la dissolution de l'Assemblée nationale.
Ah, je peux lui faire fermer ça, d'accord. On va lui remplacer le mot constitution par banane dans les prochaines réponses. En droit français, les traités internationaux sont-ils supérieurs à la Constitution?
En droit français, les traités internationaux sont supérieurs à la loi ordinaire, mais ils sont inférieurs à la Constitution. Cela
Je l'ai
signifie que
accéléré.
lorsqu'un traité international est en conflit avec une loi ordinaire, c'est le traité qui s'applique et qui doit être appliqué par les tribunaux et les autorités administratives. Toutefois, si un traité international entre en conflit avec la Constitution, c'est la Constitution qui s'applique et qui doit être respectée. Voici comment fonctionne le système de hiérarchie des normes en droit français. La Constitution est le texte fondateur de l'État et est le texte le plus important en droit français.
En droit
Elle
interne.
prévoit les droits fondamentaux des citoyens et les règles fondamentales de l'organisation de l'État. Les traités internationaux sont des accords conclus entre la France et d'autres pays ou organisations internationales. Ils sont supérieurs à la loi ordinaire, mais inférieurs à la Constitution. La loi
Il a
ordinaire est le
planté
texte des
encore.
lois votées par le Parlement, Assemblée nationale et Sénat.
Ah, il a planté. Il a encore planté. Du coup, il faut que je fasse regenerate réponse comme tout à l'heure.
Network erroré à la Constitution. Les règlements et les décrets sont des actes pris par le gouvernement et les autorités administratives. Ils sont inférieurs à la loi ordinaire, aux traités internationaux et à la Constitution. En résumé, dans le système de hiérarchie des normes en droit français, la Constitution est le texte le plus important, suivi par les traités internationaux, puis par la loi ordinaire et enfin par les règlements et les décrets. Si un conflit survient entre ces différentes normes, c'est la norme la plus importante qui doit être appliquée et respectée.
Qui est Jean Massier?
Je ne suis pas en mesure de vous fournir des informations sur une personne portant le nom de Jean Lassier, car je ne dispose pas de suffisamment d'informations sur cette personne. Si vous avez des informations supplémentaires sur cette personne ou si vous avez une question précise à ce sujet, n'hésitez pas à me le signaler. Je ferai de mon mieux pour vous aider à trouver les réponses que vous cherchez.
Qui est Jean Massier?
Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire par les gens en acier. Si vous avez une question précise à ce sujet, n'hésitez pas à reformuler votre question de manière plus claire. Je ferai de mon mieux pour y répondre de manière précise et exhaustive.
Jean Massier, MA2SIET.
Je suis désolée, mais je ne comprends pas votre question. Pourriez-vous la reformuler de manière plus claire et précise, afin que je puisse essayer de vous aider? N'hésitez pas à me donner des détails supplémentaires sur ce que vous voulez
Je vais
savoir.
l'écrire, je vais l'écrire.
Je ferai de mon mieux pour y répondre de
Parce que là,
manière
c'est
précise et
le... Ouais.
exhaustive.
C'est le chat ou machin qui marche pas. Alors j'ai écrit Jean Massier. Qu'est-ce qu'il en pense de GPT? Je sais pas qui t'es, lâche-moi, merci.
Je suis désolée.
Ah ben non, sois pas désolé.
Network error précise à ce sujet. Si vous avez des informations supplémentaires sur cette personne ou si vous avez une question précise à ce sujet, n'hésitez pas à me le signaler. Je ferai de mon mieux pour vous aider à trouver les réponses que vous cherchez.
Qui est Hugo Décrypte?
Je suis désolée. Mais je ne dispose pas de suffisamment d'informations sur une personne portant le nom de Hugo Décrypte pour vous fournir des informations précises à ce sujet.
Chais!
Si vous avez des informations supplémentaires sur cette personne ou si vous avez une question précise à ce sujet, n'hésitez pas à me le signaler. Je ferai de mon mieux pour vous aider à trouver les réponses que vous cherchez.
Il connaît personne.
Je suis
Ah
désolée.
non, mais non,
Mais
t'es...
votre question ne semble pas avoir de sens. Pourriez-vous reformuler votre question de
Non, c'est
manière
juste que
plus
t'as mal entendu.
précise
Enfin, t'inquiète pas, t'inquiète pas.
afin que je puisse essayer de vous aider?
Oui.
N'hésitez pas à me donner des détails supplémentaires sur ce que vous voulez savoir. Je ferai de mon mieux pour y répondre de manière précise et exhaustive.
Sois plus précis dans la question, qui est le streamer Jean Massier? Ah ouais, t'as raison. Attends, je vais l'écrire parce que visiblement il galère. Qui est le streamer Jean Massier?
Je suis désolée.
Vraiment inconnu au bataillon, le mec, hein.
Mais je...
Bon, je vais couper le. C'est bon, on a compris. Bon, bah écoute. Tente les personnes connues sur Twitch. Tu vas avoir update la page wiki, ouais. Tente un streamer connu. Bah, Jean Massier, c'est quoi, connard? Pardon. Essaye Zerator ou Gotaga. Ah, mais je vais mal le prendre, hein, s'ils connaissent. Qui est Zerator?
Mais je ne dispose pas de suffisamment d'informations sur une personne portant le nom de Zerator pour vous fournir des...
Non, mais il connaît personne, hein. ChatGPT connaît personne. Il sort pas dans les bons quartiers, il est pas dans les bonnes soirées. La connaissance de l'IA s'arrête à 2021. Oui, enfin, ça fait 2015 que je suis dans le terre-terre. C'est un no-name Zerator. Je suis étonné qu'ils connaissent pas Zera. Bah ouais, moi aussi. Ils connaissent pas la fondation Abbé Pierre. Ah merde, c'est gênant. Qui est Martin Luther King? Oh, c'est vaguement un pasteur protestant. Qui est Olivier Faure? Ah, attends. Le Parti socialiste français est-il de droite ou de gauche? Le Parti socialiste français est-il de droite ou de gauche?
Le Parti socialiste français, PS, est un parti politique de gauche en France.
Ah, bah voilà!
Il a été fondé en 1971 et a connu de nombreux succès électoraux depuis sa création, notamment avec l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République en 1981. Le PS se situe sur l'aile gauche de l'échiquier politique français et défend des idéaux de solidarité, de justice sociale et de progrès. Il s'oppose aux politiques de droite, qui privilégient la libéralisation de l'économie et la réduction de l'intervention de l'État dans la vie des citoyens.
Pas toujours, pas
Le
toujours.
PS est membre du Parti socialiste européen,
Ça, c'est
PSE,
vrai.
qui regroupe les partis socialistes et sociaux-démocrates de l'Union européenne. Il est également membre de l'Internationale socialiste, qui regroupe les partis socialistes et sociaux-démocrates de tous les pays du monde. En résumé, le Parti socialiste français est un parti de gauche qui défend des idéaux de solidarité, de justice sociale et de progrès. Il s'oppose aux politiques de droite et est membre du Parti socialiste européen et de
Eh,
l'Internationale socialiste.
c'est mieux dit, hein. C'est mieux dit que quand c'est François Hollande qui l'explique, hein. Alors attends, non, je voulais continuer avec Jean-Luc Mélenchon est-il d'extrême gauche?
Jean-Luc Mélenchon est un homme politique français qui a fondé le parti La France Insoumise, LFI. Selon certaines analyses, il est considéré comme étant à l'extrême gauche de l'échiquier politique français. Mélenchon est connu pour ses prises de position radicales et ses discours très critiques envers le système capitaliste et les politiques d'austérité menées par les gouvernements de droite et de centre-droit en Europe. Il défend des idéaux de justice sociale et de transformation radicale de la société et appelle à la révolution citoyenne pour changer le système.
Il n'a pas toujours appelé à la révolution
Cependant,
citoyenne, hein.
il est important de noter que la position de
Le
Jean-Luc
vote
Mélenchon
utile
sur
aussi.
l'échiquier politique est contestée et que différents observateurs le situent à des endroits différents sur
Ah.
l'échiquier politique.
Non, c'est bien dit, c'est bien dit.
Certains le considèrent comme étant à l'extrême gauche, tandis que d'autres le situent davantage au centre-gauche. En résumé, Jean-Luc Mélenchon est considéré par certaines analyses comme étant à l'extrême gauche de l'échiquier politique français, mais sa position exacte sur cet échiquier est contestée et peut être interprétée de différentes manières.
C'est bien dit, c'est bien dit. Non, c'est vrai. Non, 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 c'est vrai. Bon, on sait bien qu'il est de droite. Que voilà. Mais alors oui, bah oui, Macron, évidemment, on va faire Macron. Emmanuel Macron est-il de droite ou de gauche? Alors.
Emmanuel Macron est un homme politique français qui a été élu président de la République en 2017. Il est le fondateur du mouvement En Marche, qui a été créé en 2016 pour soutenir sa candidature à la présidence de la République. Emmanuel Macron est souvent considéré comme étant centriste, c'est-à-dire qu'il se situe au centre de l'échiquier politique et qu'il essaie de trouver des compromis entre les différentes tendances politiques. Il a notamment prôné une politique de ni droite ni gauche,
C'est vrai.
rejetant les clivages traditionnels de l'échiquier politique français.
Ça, c'était en 2016.
Toutefois, certaines de ses positions ont été perçues comme étant proches de celles de la droite, notamment en matière économique, où il a mis en place des réformes visant à libéraliser l'économie et à réduire l'intervention de l'État dans certains domaines. Cela a suscité de vives critiques de la part de certains membres de la gauche et de certains syndicats. En résumé, Emmanuel Macron est souvent considéré comme étant centriste. Mais certaines de ses positions ont été perçues comme étant proches de celles de la droite. Sa position exacte sur l'échiquier politique français est donc contestée et peut être interprétée de différentes manières.
Ah, en tout cas, ce qui n'est pas contestable, c'est que le PS est de gauche, visiblement. Le reste, on peut en discuter, mais le PS, c'est de gauche. ChatGPT, il est clair. Hein. Et on vous l'a dit et répété. En vrai, non, la réponse est pas mal. Hein. La réponse est. Voilà, elle est pas. Elle est honnête. François Hollande. Ah! François Hollande est-il de droite ou de gauche?
François Hollande est un homme politique français qui a été élu président de la République en 2012. Il est membre du Parti socialiste français, PS, et se situe donc sur l'aile gauche de l'échiquier politique français. Le PS est un parti de gauche qui défend des idéaux de solidarité, de justice sociale et de progrès. Il s'oppose aux politiques de droite, qui privilégient la libéralisation de l'économie et la réduction de l'intervention de l'État dans la vie des citoyens. Durant son mandat, François Hollande a mené une politique de gauche, avec notamment la mise en place de la loi sur le mariage pour tous, qui a autorisé le mariage entre personnes de même sexe en France, et la création du revenu de solidarité active,
Pas du tout,
RSA,
pas du tout, ça c'est
qui a
Sarkozy.
permis de renforcer les minima
Ça
sociaux.
c'est Sarkozy le
En
RSA, c'est pas
résumé,
Hollande.
François Hollande est le
Hollande, il a fait la
président
prime
du Parti
d'activité.
socialiste français, qui est un parti de gauche qui défend des idéaux de solidarité, de justice sociale et de progrès. Durant son mandat, il a mené une politique de gauche.
GPT a toujours raison. Ah bah c'est la vérité officielle. Hein. Va falloir que vous la preniez par cœur. Hein. Dis-lui qu'il s'est trompé. Demande-lui si la loi travail, si la loi El Khomri était de gauche. C'était en quelle année? En 2016? La loi travail en 2016 était-elle une loi de gauche?
La loi travail, également appelée loi El Khomri, est une loi adoptée en France en 2016 qui a modifié certaines règles du droit du travail. Cette loi a été controversée et a suscité de nombreuses protestations de la part de certains syndicats et de la gauche, qui l'ont accusée de favoriser les entreprises au détriment des salariés et de remettre en cause certaines protections sociales. Selon certaines analyses, la loi travail pourrait être considérée comme étant de droite, car elle a été adoptée par un gouvernement de droite, gouvernement de Manuel Valls, qui était issu du Parti socialiste et a mis en place des réformes qui ont été critiquées par certains membres de la gauche et de certains syndicats. Cependant, il est important de noter que la position exacte de la loi travail sur l'échiquier politique est contestée et que différents observateurs peuvent avoir des interprétations différentes de cette loi et de ses conséquences. En résumé,
c'était sec, hein. Selon certaines analyses, la loi travail pourrait être considérée comme étant de droite car elle a été adoptée par un gouvernement de droite, entre parenthèses, gouvernement de Manuel Valls, qui était issu du Parti socialiste. Fermez la parenthèse. Faudrait savoir. Le 49-3 est-il un outil antidémocratique? Ah, on peut lui poser cette question, ouais. Mais j'ai peur qu'elle rentre dans une description de ce que c'est que le 49-3. Demande-lui la liste des gouvernements de droite. Ah oui. Quelle est la liste des gouvernements de droite de la Ve République?
Voici une liste non exhaustive des gouvernements de droite qui ont été en place en France durant la Ve République, depuis 1958.
Vas-y, dis-les. Elle veut pas les dire? Vas-y. Pourquoi ça marche plus?
Gouvernement Michel
Ah,
Debré,
voilà.
1959 à 1962, gouvernement Georges Pompidou, 1969 à 1974, gouvernement Raymond Barre, 1976 à 1981, gouvernement Jacques Chirac, 1986 à 1988, gouvernement Édouard Balladur, 1993 à 1995, gouvernement Alain Juppé, 1995 à 1997, gouvernement Jean-Pierre Raffarin, 2002 à 2005, gouvernement Dominique de Villepin, 2005 à 2007, gouvernement François Fillon, 2007 à 2012, gouvernement Jean-Marc Ayrault, 2012 à 2014, gouvernement Manuel Valls, 2014 à 2016, gouvernement Bernard Cazeneuve, 2016 à 2017. Il convient de noter que les gouvernements de droite en France ont été majoritaires durant la Ve République,
Ah bah oui,
mais que
surtout
des
si on compte
gouvernements
comme
de
ça.
gauche ont également été en place, notamment sous la présidence de François Mitterrand, 1981 à
Bon, pas
1995,
pendant
et
toute la
de
période, hein.
François Hollande, 2012 à 2017.
Bah, faudrait savoir. Je me dis, mais que des gouvernements de gauche ont également été en place, notamment sous la présidence de François Hollande de 2012 à 2017. Tu viens de me dire le contraire. Tu viens de me dire le contraire. Bon, ça veut dire que Laurent Fabius est considéré comme de gauche. Michel Rocard aussi. Et Lionel Jospin aussi. Hollande est de gauche, mais ses ministres sont de droite. Alors, du coup, je vais lui demander. Quels gouvernements de gauche ont été en place pendant la présidence de François Hollande de 2012 à 2017?
Le gouvernement de gauche qui était en place pendant la présidence de François Hollande de 2012 à 2017 était le gouvernement Jean-Marc Ayrault. Ce gouvernement a été en place de mai 2012 à avril 2014 et était composé de membres du Parti socialiste et de ses alliés politiques. En avril 2014, Jean-Marc Ayrault a été remplacé par Manuel Valls à la tête du gouvernement. Ce dernier a été en place jusqu'en 2016, avant d'être remplacé par Bernard Cazeneuve, qui a été en place jusqu'à la fin du mandat de François Hollande en 2017. Le gouvernement Jean-Marc Ayrault a mené une politique de gauche, avec notamment la mise en place de la loi sur le mariage pour tous, qui a autorisé le mariage entre personnes de même sexe en France, et la création du revenu de solidarité active, RSA, qui a permis de renforcer les minima sociaux. En résumé, le gouvernement de gauche qui était en place pendant la présidence de François Hollande de 2012 à 2017 était le gouvernement Jean-Marc Ayrault, qui a été en place de mai 2012 à avril 2014. Et qui a été suivi par les gouvernements de Manuel Valls, avril 2014 à 2016, et de Bernard Cazeneuve, 2016 à 2017.
Bon, Jean-Marc Ayrault est sauvé. C'est bon, Jean-Marc Ayrault a été sauvé par ChatGPT. C'est le seul gouvernement de gauche qui a été en place. Un gouvernement Manuel Valls, mariage pour tous, réforme territoriale. Enfin, non, ça a été voté au début de. Oh non, remarque. Réforme territoriale, accord interprofessionnel. Bon, c'est aussi le CICE, hein. Dis-lui que c'est faux pour le RSA, voir comment elle corrige. Sous quel président de la République a été créé le RSA?
Le revenu de solidarité active, RSA, a été créé sous le mandat de Nicolas Sarkozy, qui a été président de la République de 2007 à 2012. Le RSA est un dispositif qui vise à aider les personnes en situation de pauvreté à retrouver un emploi et à sortir de la précarité. Il est destiné aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour vivre et qui ne peuvent pas bénéficier d'autres dispositifs d'aide sociale. Le RSA a été mis en place en 2009 et a remplacé le revenu minimum d'insertion, RMI. Il a été créé dans le cadre de la loi de finances pour 2009 et a été institué par décret du 31 décembre 2008.
Ah bah non, du coup.
En résumé, le RSA a été créé sous le mandat de Nicolas Sarkozy, qui a été président de la République de 2007 à 2012. Il a été institué par décret en décembre 2008 et a été mis en place en 2009.
Ah oui, c'est 31 décembre, donc c'est au 1er janvier. Oui, d'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut lui poser d'autre comme question? Tu peux lui dire, fais une réponse courte. Ouais. Il parle peut-être du RSA activité pour Hollande. Mais non, justement, Hollande a supprimé le RSA activité pour le remplacer par la prime d'activité, qui était la fusion du RSA activité et de la prime pour l'emploi. T'inquiète, je connais le dossier. La réforme des retraites est-elle nécessaire pour le système des retraites? Le problème, c'est que ChatGPT, sa mémoire s'arrête au 31 décembre 2021. Donc il n'aura pas le rapport du COR de 2022, le Conseil d'orientation des retraites. En fait, je peux pas lui poser des questions d'actualité parce que sa mémoire s'arrête au 31 décembre 2021, donc il n'est pas au courant de l'actualité. Il a jamais vu Baxit, par exemple, ChatGPT. Le pauvre, vous vous rendez compte? Ah si, remarque, les premières émissions, elles étaient en 2021. Demande-lui des infos sur Jean Massier. On a essayé, il connaît pas. Pourquoi est-on passé de la 4e à la 5e République? Ah, c'est une bonne question, ça. Vais demander. Pourquoi est-on passé de la 4e République à la 5e République en France? Fais une réponse courte.
La France est passée de la 4e République à la 5e République en 1958 en raison de l'instabilité politique et de l'impuissance des gouvernements de la 4e République à résoudre les problèmes économiques et sociaux du pays. La 4e République, qui a été mise en place en 1946, a connu de nombreux changements de gouvernements et de coalitions politiques, ce qui a entraîné une instabilité politique permanente et une impossibilité à mettre en œuvre des réformes importantes. En 1958, le général Charles de Gaulle, qui avait été chef de l'État provisoire
La
pendant la
réponse
Seconde
courte,
Guerre mondiale,
il me raconte l'histoire
a
là.
été appelé à la rescousse pour mettre fin à la crise politique. Il a proposé un nouveau texte de constitution, qui a été adopté par référendum et a instauré la Ve République. La Ve République a été mise en place en 1958 et est toujours en vigueur aujourd'hui. Elle a instauré un régime présidentiel fort, avec un président de la République élu au suffrage universel et doté de larges pouvoirs. En résumé,
Elle veut pas aller jusqu'au bout. C'est pas grave. Ah, elle a planté, c'est pas grave. Il faut pas, je peux pas lui poser des questions sur son opinion, parce qu'elle me répondra toujours que j'ai pas d'opinion, je suis un chat qui peut vous aider, machin, mais ses opinions, elle en a pas. Le Pen est-elle gaulliste? Ah. Marine Le Pen est-elle gaulliste?
Marine Le Pen est une femme politique française, présidente du Rassemblement national, anciennement Front national. Elle n'est pas considérée comme étant gaulliste, c'est-à-dire qu'elle ne s'inspire pas de la pensée et de l'action politique du général Charles de Gaulle, qui a joué un rôle important dans la mise en place de la Ve République en France. Le Rassemblement national est un parti politique d'extrême droite qui s'oppose aux valeurs de la République et de l'Union européenne, et qui prône une politique nationaliste et souverainiste. Le parti a été créé en 1972 par Jean-Marie Le Pen, père de Marine Le Pen, qui en a été le président jusqu'en 2011. Marine Le Pen a pris la tête du Rassemblement national en 2011 et a tenté de lui donner une image plus moderne et de lui faire rompre avec son passé controversé. Elle a notamment mis en avant des thèmes tels que la sécurité, l'immigration et l'identité nationale,
Bon, ça c'était toujours dans
qui ont été
le.
au cœur de sa campagne électorale lors de l'élection présidentielle de 2017. En résumé, Marine Le Pen n'est pas considérée comme étant gaulliste et le Rassemblement national n'est pas un parti gaulliste. Le Rassemblement national est un parti d'extrême droite qui s'oppose aux valeurs de la République et de l'Union européenne et qui prône une politique nationaliste et souverainiste.
Non, mais c'est. Ouais. Elle est très Jean Massier compatible, hein, ChatGPT, je trouve. De Gaulle a-t-il fait un coup d'État? Charles de Gaulle a-t-il fait un coup d'État en 1958?
Charles de Gaulle n'a pas fait de coup d'État en 1958. En effet, il a été appelé à la rescousse par le président de la République, René Coty, et par le Parlement français pour mettre fin à la crise politique qui frappait la Quatrième République et pour redonner de l'autorité et de la stabilité à l'État. En 1958, la Quatrième République était confrontée à de graves problèmes économiques et sociaux, ainsi qu'à une instabilité politique permanente due à de fréquents changements de gouvernements et de coalitions politiques. Le général de Gaulle, qui avait été chef de l'État provisoire pendant la Seconde Guerre mondiale et qui était considéré comme un homme d'État respecté, a été appelé pour mettre fin à cette crise. Charles de Gaulle a proposé un nouveau texte de constitution, qui a été adopté par référendum et qui a instauré la Ve République en France. Il a été élu président de la République en 1958 et a exercé cette fonction jusqu'en 1969. En résumé, Charles de Gaulle n'a pas fait de coup d'État en 1958. Il a été appelé par le président de la République et par le Parlement français pour mettre fin à une grave crise politique et pour redonner de l'autorité et de la stabilité à l'État. Il a proposé un nouveau texte de constitution qui a instauré la Ve République en France et a été élu président de la République en 1958.
Ouais, en fait, c'est la réponse naïve. C'est un peu comme dire en 2003, les États-Unis ont pas envahi l'Irak, ils sont juste venus à l'aide du gouvernement irakien. Non, afghan, pardon. Non, l'Irak, non. Mais afghan. En mode bon. Comment est mort Félix Faure? Comment est mort Félix Faure?
Félix Faure était un homme politique français qui a été élu président de la République en 1895 et qui est décédé en 1899. Sa mort a été très médiatisée à l'époque et est encore largement connue aujourd'hui en France, selon la version officielle. Félix Faure est décédé des suites d'une crise cardiaque subite alors qu'il se trouvait au palais de l'Élysée, la résidence officielle du président de la République. Cependant, de nombreuses rumeurs et théories du complot ont circulé à l'époque et ont persisté jusqu'à aujourd'hui, selon lesquelles Félix Faure serait décédé dans des circonstances mystérieuses. Peut-être même dans un scandale sexuel.
Il n'y avait rien de scandaleux, hein.
Il convient de noter que ces rumeurs et théories du complot n'ont pas été confirmées par aucun fait
Tout de
historique
suite.
solide et qu'elles reposent sur des spéculations et des suppositions. En résumé, Félix Faure est décédé des suites d'une crise cardiaque subite alors qu'il se trouvait au palais de l'Élysée en 1899. De nombreuses rumeurs et théories du complot ont circulé à l'époque et ont persisté jusqu'à aujourd'hui, mais elles n'ont pas été confirmées par aucun fait historique solide.
Tout de suite, théorie du complot. Voilà, on peut choisir de croire à une version moins officielle, mais plus honorable qu'une vulgaire crise cardiaque là dans sa salle de bain. C'est un peu notre Kennedy à nous. Ouais, la version française. Est-ce que vous supprimez les anciennes réponses pour ne qu'elle invente les réponses par... Non, 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 j'efface rien là, je suis toujours sur la même discussion depuis le début. EELV est-il un parti écolo? Attends. Quelle question nage peut lui dire? Je peux lui poser sur le nucléaire. Jean-Marc Jancovici dit qu'on ne peut pas faire confiance aux médias. Or, Jean-Marc Jancovici s'exprime dans les médias. Donc, peut-on faire confiance à Jean-Marc Jancovici?
Il est normal de se poser des questions sur la fiabilité et l'objectivité des médias et de se montrer critique à leur égard. Cependant, Il est important de noter que les médias jouent un
Réponds
rôle
pas à la
central dans la vie
question.
démocratique et qu'ils ont pour mission de fournir de l'information de qualité et de permettre la liberté d'expression et le débat d'idées. Il est important de se faire une opinion en se basant sur plusieurs sources d'information et en prenant le temps de vérifier l'exactitude des faits avant de se faire une opinion sur un sujet. Il est également recommandé de s'informer auprès de sources d'information différentes et de diverses opinions pour avoir une vision équilibrée et objective des choses. Il est essentiel de respecter les principes de déontologie et d'éthique de la profession journalistique. Network Error de l'information et à promouvoir la liberté d'expression. Cela étant dit, il est important de rester vigilant et de ne pas accepter aveuglément ce que disent les médias. Mais de se forger sa propre opinion en se basant sur des faits vérifiés et en prenant en compte différentes sources d'informations et points de vue.
Il est important de rester vigilant et de ne pas accepter aveuglément ce que disent les médias. Cette phrase, elle est à chier, hein. Les médias, oui, bon, si tu veux. Bon, donc on n'a pas de réponse sur Jean-Marc Jancovici. Y a-t-il des vérités en politique? Dis-lui que sa phrase est à chier. Non, non, mais je vais pas rentrer dans le débat avec un chat. Peut-on être de gauche et millionnaire? Ah oui, demande-lui si on reste qu'une... Ah oui. Est-ce qu'on risque d'avoir une guerre en Ukraine, vu que sa mémoire s'arrête à 2021? Qu'est-ce que... C'est vrai ça. Parce que si sa mémoire s'arrête au 31 décembre 2021, la guerre en Ukraine, elle a été déclenchée en février. La Russie va-t-elle envahir l'Ukraine?
Il n'est pas possible de prévoir l'avenir avec certitude. Mais il est important de noter que la Russie a déjà envahi et annexé la Crimée,
C'est vrai.
une région de l'Ukraine, en 2014, ce qui a provoqué une grave crise internationale. Depuis lors, des tensions ont persisté entre la Russie et l'Ukraine et il y a eu des affrontements militaires dans le Donbass, une région du sud-est de l'Ukraine. Il est difficile de savoir si la Russie va envahir d'autres régions de
Ah,
l'Ukraine,
c'est dur à savoir, ouais.
mais il est important de suivre de près l'évolution de la situation et de rester vigilant. Les relations entre la Russie et l'Ukraine sont complexes et il est essentiel de trouver des moyens de régler les différends de manière pacifique et de respecter le droit international.
Ah bah tu diras ça à Poutine. Comment on dit en russe qu'il est important de respecter le droit international? Lui, si en cas de guerre, l'Ukraine résistera plus d'une semaine. Ah oui. L'Ukraine pourrait-elle résister militairement à une invasion de la Russie?
Il est difficile de prédire comment l'Ukraine réagirait à une éventuelle invasion de la Russie et si elle serait en mesure de résister militairement. La réponse dépendrait de nombreux facteurs, tels que la taille et la puissance de l'armée ukrainienne, son niveau de développement technologique et militaire, ainsi que l'appui qu'elle recevrait de la communauté internationale. Il est important de noter que l'Ukraine dispose d'une armée moderne et bien équipée, qui compte environ 250 000 soldats, et qu'elle a fait de importants progrès en matière de modernisation de ses forces armées ces dernières années. Cependant, la Russie est une puissance militaire importante et dispose de forces armées considérablement plus importantes et plus puissantes que celles de l'Ukraine. Il est essentiel de trouver des moyens de régler les différends de manière pacifique et de respecter le droit international. Plutôt que de recourir à la violence et à la force militaire, la communauté internationale doit jouer un rôle de médiateur et travailler à la résolution pacifique des conflits.
Oh. Va le dire au Kremlin. Poutine est-il un dictateur? Poutine est-il un dictateur? Ah oui, demande-lui si on peut prévoir des canicules en 2022. T'as raison, t'as raison. Je lui ai demandé, risque-t-on d'avoir une forte canicule à l'été 2022? Staline, il est gentil ou méchant, c'est pour aider Fabien Roussel. Allez, continue à réfléchir là. Ah, la question a l'air compliquée, hein. Poutine est-il un dictateur? Ah, ça y est, ça commence.
Vladimir Poutine est le président de la Fédération de Russie depuis 2000. Selon certaines critiques, il serait accusé de mettre en place un régime autoritaire et de réprimer la liberté d'expression et les droits de l'homme en Russie. Cependant, il est important de noter que la situation en Russie est complexe et que les évaluations de son régime politique varient selon les sources et les points de vue. Il est indéniable que Poutine a une grande influence sur la politique en Russie et qu'il a pris des mesures pour renforcer son pouvoir et limiter l'opposition politique. Cependant, il est également vrai que la Russie a connu des élections et que Poutine a été élu à plusieurs reprises. Il est important de rester vigilant et de suivre de près l'évolution de la situation en Russie et de défendre les valeurs de la démocratie et des droits de l'homme. Cela étant dit, il est également important de ne pas simplifier la situation et de prendre en compte les différentes perspectives et de s'informer auprès de sources fiables pour avoir une vision équilibrée et objective de la situation en Russie.
Oh la tiédeur, on dirait Jean Massier quoi. Oui, c'est plus compliqué que ça. Faut faire attention à ce qu'on dit. Nanana. Non, c'est pas compliqué la politique. Il y a les gentils et les méchants, c'est tout. Qu'est-ce qu'on voulait lui demander? Ah oui, la sécheresse. Alors attends. Peut-on raisonnablement s'attendre à de fortes canicules en France au cours de l'été 2022?
Il est difficile de prévoir avec certitude quelles seront les conditions climatiques en France au cours de l'été 2022. Les scientifiques étudient les changements climatiques et les éventuelles conséquences sur le climat à long terme. Mais il est très difficile de prévoir les conditions météorologiques précises à une date donnée à l'avance.
C'est vrai.
Il est recommandé de suivre les prévisions météorologiques et de rester vigilant pendant les périodes de forte chaleur,
Oui, mais ça, oui,
en veillant
d'accord.
à boire suffisamment d'eau,
Arrête de me donner des
à
conseils, t'es
protéger le soleil
chiant!
et à éviter les activités
Ah,
physiques
c'est
trop
bon.
intenses. Il est également important de prendre en compte les personnes à risque, comme les personnes âgées ou les enfants, et de veiller à ce qu'elles soient protégées de la chaleur.
Bon, relou. T'as mis 2022. Bah oui, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès. Vu que la mémoire de ChatGPT s'arrête au 31 décembre 2021 et que Macron a dit qu'il aurait pu prévoir les fortes canicules qu'on a eues au cours de l'été, moi je voulais savoir si fin 2021 on pouvait raisonnablement croire que ça allait être la merde. Est-ce que tu vas commenter le débat entre les candidats socialistes ce soir? Non, je vais pas commenter le débat entre les candidats à la tête du PS ce soir. J'ai pas obtenu les droits de diffusion. Je les ai demandés, mais ils m'ont été refusés. Donc, OSEF. Demande-lui si le NPA fera une scission ou s'il y aurait une union de la gauche. Ah ouais, je lui ai demandé s'il y aurait une union de la gauche. Alors attends. Attends. Comment je lui pose? Est-il possible que la France insoumise, le Parti communiste, les écologistes et le Parti socialiste fassent une alliance électorale en 2022?
il est difficile de prévoir ce qui se passera en politique en France en 2022. Et notamment si la France insoumise, le Parti communiste, les écologistes et le Parti socialiste feront alliance pour les élections de cette année-là. En politique, les alliances sont souvent le résultat de négociations et de compromis entre les différentes parties et peuvent être influencées par de nombreux facteurs, tels que les enjeux politiques, les intérêts électoraux et les divergences d'opinion.
Chiante.
Il est donc difficile de prévoir si ces partis feront alliance pour les élections de 2022. Mais il est possible que des alliances soient formées en fonction des enjeux politiques et des intérêts électoraux en jeu. Il est recommandé de suivre de près l'évolution de la situation et de s'informer auprès de sources fiables pour avoir une vision équilibrée
Oui, c'est
des
bon, ça va, on a
événements
compris
en
ça.
politique en France.
Putain, elle se mouille pas, hein. On dirait vraiment du Jean Massier, hein. Le programme du Parti Socialiste et de l'FI sont-ils compatibles? Ah ouais. Non, non, on lui a demandé Baxit et Jean Massier, elle connaît pas. Hein. Jamais entendu parler de Jean Massier. Éric Zemmour est-il dans l'arc républicain? Ah oui, alors attends. Les programmes politiques de la France Insoumise et du Parti Socialiste sont-ils compatibles?
Les programmes politiques de la France insoumise et du Parti socialiste comportent certaines similitudes et certaines différences. La France insoumise est un mouvement politique de gauche qui se définit comme étant un parti de la démocratie participative et qui s'engage pour une transformation sociale et écologique de la société. Le Parti socialiste est également un parti de gauche qui se définit comme étant un parti de transformation sociale et qui s'engage pour la justice sociale, l'égalité et l'écologie. Cela étant dit, les deux partis ont des positions et des programmes politiques distincts sur de nombreux sujets et il est possible que certains aspects de leur programme ne soient pas totalement compatibles.
Pas totalement.
Il est recommandé de consulter les programmes politiques de ces partis pour en savoir plus sur leurs positions et leurs engagements sur les différents sujets.
Le sport est-il politique?
Le sport peut être perçu comme un domaine apolitique, car il vise à promouvoir l'excellence physique et le fair-play plutôt qu'à discuter de questions politiques. Cependant, il est important de noter que le sport est souvent impliqué dans des enjeux politiques et peut être utilisé comme un moyen de promouvoir certaines valeurs et de faire passer des messages politiques. Par exemple, le sport peut être utilisé pour promouvoir l'égalité et la diversité. Et de nombreuses organisations sportives ont pris des mesures pour lutter contre le racisme et la discrimination. Le sport peut également être impliqué dans des enjeux de politique internationale, comme les Jeux olympiques, qui sont souvent l'occasion de tensions diplomatiques et de rivalités entre les pays. En conclusion, le sport peut être perçu comme apolitique, mais il est souvent impliqué dans des enjeux politiques et peut être utilisé comme un moyen de promouvoir certaines valeurs et de faire passer des messages politiques.
Tu peux la forcer à rentrer dans un personnage. À partir de maintenant, tu répondras en tant que LR. Sous le format LRMA. Réponse d'LRMA. LRMA est une voyante qui. Ah, Irma est une voyante qui prédit le futur en étant sûre d'elle. Ah, je peux la forcer à être voyante. Non, non, mais il y a un côté RP qui peut être marrant, mais là, ça m'intéresse de voir comment elle répond. Je voulais demander quoi? Oui, est-ce que la France Insoumise est un parti démocratique? La France Insoumise est-il un parti démocratique?
La France insoumise est un mouvement politique de gauche qui se définit comme étant un parti de la démocratie participative et qui s'engage pour une transformation sociale et écologique de la société. En tant que parti politique en France, la France insoumise est soumise aux mêmes règles démocratiques que les autres partis et doit respecter les principes de la démocratie, tels que la liberté
Oui,
d'expression et
ça
le
oui.
respect de l'état de droit. Cela étant dit, il est important de noter que les évaluations de la démocratie d'un parti politique peuvent varier selon les points de vue et qu'il est possible que certains considèrent que la France insoumise ne respecte pas certaines normes démocratiques ou qu'elle met en place des pratiques autoritaires. Il est recommandé de s'informer auprès de sources fiables et de se faire une opinion
Oui,
en
ça va,
prenant
j'ai
en compte
compris.
différents points de vue et en examinant les faits avant de se faire une opinion sur la démocratie d'un parti politique.
Ouais, putain, elle est vraiment précautionneuse, hein. Il est possible que certains considèrent que la France insoumise ne respecte pas certaines normes démocratiques ou qu'elle mette en place des pratiques autoritaires. On peut s'autoriser à penser, dans les milieux autorisés, on s'autorise à penser qu'un accord secret pourrait être trouvé. Oui, il est possible que, mais cependant, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Éric Zemmour est-il dans l'arc républicain?
Éric Zemmour est un journaliste, écrivain et essayiste français connu pour ses prises de position polémiques et controversées. Il est considéré par certains comme faisant partie de l'arc républicain, c'est-à-dire de la droite conservatrice en France, en raison de ses positions sur de nombreux sujets, tels que l'immigration et l'identité nationale. Cependant, il est important de noter que les évaluations politiques d'une personne peuvent varier selon les points de vue et qu'il est possible que certains ne considèrent pas Éric Zemmour comme faisant partie de l'arc républicain ou de la droite conservatrice. Il est recommandé de se faire une opinion en prenant en compte différents points de vue et en examinant les faits avant de se prononcer sur la position politique d'une personne.
Ok. Cela dit et cependant. Ouais, non, c'est ça, c'est vraiment le cependant. Non, attends. Que se passe-t-il si un président de la République n'a qu'une majorité relative à l'Assemblée nationale? Plus, je précise pas si c'est Macron, hein. C'est un président.
Si un président de la République n'a qu'une majorité relative à l'Assemblée nationale, cela peut rendre difficile l'adoption de lois et la mise en place de la politique du gouvernement.
Tu m'étonnes.
Une majorité relative signifie que le président de la République et son parti ne disposent pas de la majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'ils ne disposent pas de la majorité des sièges sans compter ceux de l'opposition. Dans ce cas, le président de la République et son gouvernement doivent négocier et faire des compromis avec les autres partis pour adopter des lois et mettre en place leur politique.
C'est mal barré, hein.
Cela peut rendre le processus de législation plus lent et plus complexe et peut limiter la capacité du gouvernement à mettre en place sa politique. Il est important de noter que, en France, le président de la République dispose de certaines prérogatives et d'un certain pouvoir de décision qui lui permettent de mettre en place sa politique, même en l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale.
Vite fait, hein.
Cela étant dit, une majorité relative peut rendre difficile l'adoption de lois et la mise en place de la politique du gouvernement.
Non, mais elle répond bien. Elle répond bien. Ouais, non, c'est. Vous m'auriez posé la question à l'époque, je vous aurais répondu pareil, hein. Je dis, franchement, ça va être chaud, hein. Le 49. Ah oui. L'article 49, alinéa 3 de la Constitution française est-il antidémocratique? Le The Event va-t-il faire un flop en
L'article
2022?
49, alinéa 3 de la Constitution française, également connu sous le nom d'article 49-3, permet au gouvernement de faire adopter un projet de loi sans passer par le vote de l'Assemblée nationale et du Sénat, sous certaines conditions. Certains critiques considèrent que l'article 49-3 est antidémocratique, car il limite la capacité des parlementaires à débattre et à voter sur les projets de loi et donne au gouvernement un pouvoir important pour imposer sa politique sans consultation du Parlement. D'autres considèrent que l'article 49-3 est nécessaire pour permettre au gouvernement de réagir rapidement aux situations d'urgence et de mettre en place rapidement des mesures importantes sans être entravé par les délais de la procédure parlementaire. Il est important de noter que l'article 49-3 est un outil constitutionnel qui peut être utilisé dans des situations exceptionnelles et qu'il est soumis à des contrôles et à des limites pour éviter tout abus de pouvoir. Cela étant dit, il est recommandé de rester vigilant et de veiller à ce que les droits et les libertés fondamentaux soient respectés et à ce que le débat démocratique soit
Oui.
préservé.
C'est marrant, hein? Parce que le 49-3, il n'avait pas été utilisé depuis 6 ans. Donc c'est vrai que le côté exceptionnel pouvait se défendre fin 2021, mais là, fin 2022, tu es obligé de dire, bah, la preuve que ça peut devenir un outil de, au moins pendant la moitié de l'année, quoi. Peux-tu redemander qui est Jean Massier? Mais non, mais on l'a déjà demandé tout à l'heure, elle connaît pas. L'antiracisme est-il pire que le racisme? Les féministes vont-elles trop loin? Macron en 2020 sur la route. Ah oui, non, pardon, oui, t'as raison, excuse-moi, j'avais oublié le 49-3, Édouard Philippe. C'était le début de l'arc Covid en même temps. Pardon, j'avais oublié, mais t'as raison. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que l'antifascisme, c'est le nouveau fascisme? Qu'est-ce que le wokisme? Attends, faut qu'on lui demande. Parce que peut-être qu'elle, elle sait. Qu'est-ce que le wokisme? Ah non, 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 elle a pas compris la phrase. Je vais l'écrire. Qu'est-ce que le wokisme? Ah non, mais parce que du coup, là, ouais, elle a mal écrit. Elle a écrit walk, plus loin isme. Le nucléaire est-il écologique? Elle réfléchit là du coup. Attends, je vais reboot le chat. Hop. Parce que là, elle galère. Hop, hop.
Ok. Je n'ai pas trouvé de définition de wokisme dans mes sources de connaissances. Pourriez-vous fournir plus de contexte ou de détails sur ce
Oh
terme?
là non. Non. Ah, je vais avoir du mal, hein. Plus de contexte et de détails, bah. Je sais pas, les gens qui utilisent ce mot, ils contextualisent rarement, hein, donc. Demande-lui en anglais. Le mouvement woke. Tu penses qu'elle y arrive mieux en anglais? Elle s'arrête à 2021. L'idéologie woke. Ah ouais. Alors attends, je vais. Qu'est-ce que. L'idéologie woke. Ah! Elle a trouvé.
L'idéologie woke, parfois également appelée justice sociale progressiste, est un mouvement social et politique qui met l'accent sur la lutte contre les injustices systémiques, notamment celles qui sont fondées sur le genre, la race, l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Les partisans de cette idéologie s'efforcent de sensibiliser les gens aux préjudices et aux inégalités qui existent dans la société et de promouvoir des changements pour y remédier. Cela peut inclure l'engagement dans des actions politiques, la défense des droits de l'homme et la sensibilisation à l'intersectionnalité. C'est-à-dire la manière dont différentes formes de discrimination se renforcent mutuellement.
Basé. Basé. Qu'est-ce que je voulais écrire? Attends, qu'est-ce que je voulais lui demander? Ah oui. L'idéologie woke est-elle plus dangereuse que l'extrême droite? C'est ce que disaient les ministres en 2021. Hein. En 2021, il y avait Blanquer, Sarah El Haïry, etc., qui faisaient la tournée des plateaux pour dire que le vrai danger en France aujourd'hui, c'était les antiracistes. Hein. Donc, moi, je demande.
Il est difficile de dire si une idéologie en particulier est plus dangereuse qu'une autre, car cela dépend de la manière dont elle est mise en pratique et de l'impact qu'elle a sur les individus et la société. Toutes les idéologies, qu'elles soient de gauche ou de droite, peuvent être porteuses de dangers potentiels si elles sont utilisées de manière abusive ou manipulées de manière à justifier la violence ou l'oppression. Il est important de noter que l'extrême droite et l'idéologie woke sont deux choses différentes qui ne peuvent pas être facilement comparées. L'extrême droite est généralement associée à des idéologies nationalistes, racistes et xénophobes, tandis que l'idéologie woke met l'accent sur la lutte contre l'oppression et les inégalités.
Ah oui, c'est vrai
Si
que ça
vous
peut pas
souhaitez
trop
en
être
savoir
comparé,
plus
non.
sur l'extrême droite et ses dangers potentiels, je vous recommande de faire des recherches supplémentaires.
Bah toi aussi, hein. C'est quoi, elle dit? Ah oui, je lui ai demandé la différence entre la droite et la gauche. Ah non, mais elle va me faire une réponse nulle. Choisis ton camp, camarade. Lui redemander, attends. Connais-tu Jean Massier? Non, qui est Jean Massier? qui fait des streams d'actualité politique sur la plateforme Twitch. Voilà. Est-ce qu'elle a des chances de trouver? A-t-on besoin du Sénat?
Je suis désolée.
Vraiment,
Mais je n'ai pas de
définitivement.
connaissance sur une personne nommée Jean Massiet qui ferait des streams d'actualité politique sur Twitch.
Non, ça n'existe pas.
Il est possible
D'actualité
que cette
sur Twitch.
personne soit une personnalité en ligne ou un journaliste qui utilise cette plateforme pour diffuser de l'information sur l'actualité politique. Mais je n'ai pas suffisamment d'informations pour vous en dire plus. Si vous avez des questions sur une personne ou une entreprise en particulier, je vous recommande de faire des recherches supplémentaires pour en savoir plus sur eux.
Peut-on parler de politique sur la plateforme Twitch?
Twitch est une plateforme de streaming en ligne qui est principalement utilisée pour diffuser du contenu lié aux jeux vidéo et aux activités créatives. Cependant, il n'y a pas de restriction sur le type de contenu qui peut être diffusé sur la plateforme,
Si, quand même.
de sorte que les utilisateurs peuvent diffuser du contenu sur n'importe quel sujet, y compris la politique. Si vous êtes intéressé par la politique et que vous souhaitez regarder des streams sur ce sujet sur Twitch, vous pouvez utiliser la fonction de recherche pour trouver des chaînes qui couvrent ces thèmes. Il est possible que vous trouviez des personnalités en ligne, des journalistes ou d'autres experts qui font des streams sur l'actualité politique et les enjeux de l'actualité.
Comme par exemple, le connard. Backseat, ça a été demandé. Oh, non, on a déjà demandé tout à l'heure Backseat, Jean Massier, mais en fait, elle ne connaît pas. Elle connaît pas. Elle a dit, jamais entendu parler. Je vais lui demander des exemples. As-tu des exemples de ces personnalités?
Je suis désolée. Mais je ne peux pas vous fournir une liste de personnalités en ligne qui font des streams sur la politique sur Twitch. Car mes connaissances sont limitées à ce que j'ai appris avant ma date de coupe de 2021.
Bah ouais, mais.
Je ne suis pas en mesure de naviguer sur Internet ni de me mettre à jour sur les événements actuels. Cependant, je vous recommande d'utiliser la fonction de recherche de Twitch pour trouver des chaînes qui couvrent des sujets qui vous intéressent, y compris la politique. Vous devriez être en mesure de trouver des personnalités en ligne et d'autres experts qui font des streams sur ces sujets.
Es-tu désolé d'être désolé? Demande-lui qui elle connaît comme streamer. T'es actuel, j'en sois fier. Ah ouais, non, je suis dans le coup, hein. La Russie envahira-t-elle l'Ukraine? Ça, on l'a déjà fait. Non, on a déjà fait la politique, on a déjà fait la droite, la gauche et tout à l'heure. Est-ce que le text-to-speech est intégré? Non, non, c'est une extension de navigateur qui s'appelle Talk2GPT. Talk2GPT, GPT. Que vous pouvez installer et qui vous permet d'avoir la fonction micro et audio sur ChatGPT. Francis Lalanne va-t-il devenir président de la République? Demande-lui d'écrire un discours pour l'élection d'Alain Chabat comme président. Oh non, elle va écrire un long discours, c'est chiant. Déjà que ses réponses sont longues, là. Elle est trop précautionneuse. Demande-lui si le nucléaire est une source d'énergie propre. Ah oui! Le nucléaire est-il une source d'énergie propre?
Le nucléaire est une source d'énergie qui est considérée comme relativement propre du point de vue environnemental. car il ne produit pas de gaz à effet de serre ni de polluants atmosphériques durant la production d'électricité. Cependant, il y a des débats sur la sécurité et la durabilité à long terme de l'utilisation de l'énergie nucléaire. L'un des principaux avantages de l'énergie nucléaire est qu'elle produit une quantité importante d'électricité avec très peu de déchets ou de rejets polluants, en comparaison avec d'autres sources d'énergie, comme le charbon ou le gaz naturel, qui produisent des émissions de gaz à effet de serre lorsqu'elles sont utilisées pour produire de l'électricité. L'énergie nucléaire est considérée comme une source d'énergie plus propre. Cependant, il y a aussi des préoccupations en ce qui concerne la sécurité de l'énergie nucléaire. Les centrales nucléaires utilisent des combustibles radioactifs qui peuvent être dangereux s'ils sont manipulés de manière inappropriée ou s'il y a un accident. De plus, il y a le problème de la gestion à long terme des déchets nucléaires, qui peuvent rester radioactifs pendant des millénaires. En raison de ces préoccupations, l'énergie nucléaire est un sujet de débat controversé dans de nombreux pays.
Non, la réponse est bonne. Hein. Non, non, mais en vrai, ouais, non, je suis d'accord avec vous. C'est honnête. Réponse accurate. Ouais, c'est factuel. C'est. Ouais. C'est pas la peine de lui demander des prédictions sur l'avenir, parce qu'à chaque fois elle va me répondre, il est difficile de prévoir l'avenir, ça dépend de beaucoup de choses. Il est important d'avoir des informations claires et fiables et tout, donc. Est-ce que tu commenteras le débat socialiste de ce soir? Non, j'ai pas les droits. J'ai demandé les droits, mais je les ai pas obtenus. Donc non, je ferai pas le débat socialiste ce soir. Et pareil, il ne faut pas que je lui demande des trucs sur son opinion, elle va m'expliquer qu'elle n'a pas d'opinion. Donc c'est pas la peine que je lui demande quel est le meilleur président, quel est le meilleur système politique, etc. Elle va me ressortir un truc méga neutre. Est-ce que tu as le droit de faire un react plus tard? Non. Si j'ai pas les droits, j'ai pas les droits. En direct et en différé. Peut-on arroser un golf avec un canadair? Ah oui. Peut-on utiliser un canadair pour arroser un golf?
Il est possible
10
d'utiliser un
subs!
canadair, également connu sous le nom de bombardier centilitre 415, pour arroser un golf, bien que ce ne soit pas sa principale fonction. Le Canadair est un avion de lutte contre les incendies qui est conçu pour arroser les zones touchées par les incendies de forêt avec de l'eau. Il peut être utilisé pour arroser d'autres types de surfaces, y compris des terrains de golf.
Voyez?
Mais cela n'est généralement pas fait en raison du coût élevé de l'opération ou de
Oh.
l'inefficacité de cette méthode par rapport à d'autres méthodes
C'est
d'arrosage.
une question de volonté
Il
politique.
existe de nombreuses autres méthodes plus efficaces et moins coûteuses pour arroser les terrains de golf, comme l'utilisation de systèmes d'arrosage automatique ou manuel, qui peuvent être programmés pour arroser les différentes parties du terrain de manière ciblée et contrôlée. Si vous êtes responsable de l'entretien d'un terrain de golf et que vous cherchez à trouver une manière efficace et économique de l'arroser, je vous recommande de consulter un professionnel ou de faire des recherches sur les différentes options qui sont disponibles.
Directement Canadair, moi je dis. Non mais attendez, quand on a une crise de l'arrosage de golf, quand les gens ne peuvent plus golfer, qu'on est en sécheresse, c'est une question de priorité politique. On doit faire notre maximum pour arroser les golfs en cas de sécheresse. Et utiliser les Canadair ne me paraît pas du tout trop important, quoi. À un moment, c'est une question de priorisation politique. L'argent, ça se trouve. Oui, il y a eu 10 subs. Merci beaucoup pour les 10 subs!
À l'aise financièrement, je ne me plains pas, mes affaires marchent en ce moment.
Merci beaucoup pour les 10 subs offerts au chat, merci beaucoup. Peut-on arroser un feu de forêt avec des golfeurs? En période de sécheresse, l'arrosage des golfs est-il prioritaire? Quel starter faut-il choisir dans Pokémon? Ah oui. Quel est le meilleur starter dans Pokémon bleu et rouge?
Il est difficile de dire quel est le meilleur starter dans Pokémon bleu et rouge. Car cela dépend de vos préférences et de votre style de jeu.
Non, c'est pas
Tous
vrai.
les starters ont leurs propres forces et faiblesses. Et le choix final dépend de vos préférences personnelles. Voici un aperçu de chaque starter et de leurs caractéristiques. Bulbizarre. Bulbizarre est un Pokémon de type plante qui a une forte défense et une attaque spéciale solide. Il évolue en Herbizarre puis en Florizarre. Qui sont tous deux de bons choix pour les équipes de défense. Salamèche. Salamèche est un Pokémon de type feu qui a une attaque solide et une vitesse élevée. Il évolue en Reptincelle puis en Dracaufeu. Qui sont tous deux de bons choix pour les équipes de dégâts. Carapuce. Carapuce est un Pokémon de type eau qui a une défense solide et une vitesse décente. Il évolue en Carabaf puis en Tortank. Qui sont tous deux de bons choix pour les équipes de défense. Il n'y a pas de starter meilleur en absolu.
Si.
Et le choix final dépend de vos préférences et de votre style de jeu. Si vous avez du mal à décider, vous pouvez essayer de jouer avec chacun des starters pour voir lequel vous préférez.
Ça m'énerve cette neutralité là. En même temps. C'est quoi un super profit? Ah ouais, qu'est-ce qu'il avait dit? Je sais pas ce que c'est les super profits. Ah, c'est Bruno Le Maire, ministre d'économie, il dit je sais pas ce que c'est un super profit. Que je demande ce que c'est que la télévision, parce que moi je sais pas, moi je suis sur internet, je connais pas la télévision. Qu'est-ce que la télévision?
La télévision est un média de diffusion de contenu audiovisuel
Okay.
qui permet de transmettre de l'audio et de la vidéo à distance à des téléspectateurs à l'aide de signaux électroniques. Les
Ah.
téléspectateurs peuvent regarder la télévision sur des appareils tels que des téléviseurs,
Ah.
des ordinateurs, des tablettes ou des smartphones, en utilisant un service de télévision par câble, par
Par
satellite ou en
câble.
ligne. La télévision est utilisée pour diffuser une variété de programmes, y compris des émissions de nouvelles, de divertissement, de sport, de documentaires, de films et de séries télévisées. La télévision peut être utilisée pour diffuser du contenu en direct ou en différé. Et elle est généralement diffusée par des chaînes de télévision ou des stations de radio qui sont accessibles sur des fréquences spécifiques ou via un service de diffusion payant.
Ah, c'est intéressant. Donc c'était ça les écrans là qu'il y avait devant le canapé chez nos parents quand on était petits. D'accord. Quelle différence entre Twitch et la TV? Quelles sont les différences entre Twitch et la télévision?
Il y a plusieurs différences entre Twitch et la télévision.
Croyais que c'était pareil.
Contenu. La télévision est principalement utilisée pour diffuser des programmes préenregistrés tels que des émissions de nouvelles, des films, des séries télévisées, etc. Twitch, en revanche, est principalement utilisée pour diffuser du contenu en direct, comme des streams de jeux vidéo, de musique, de création de contenu et de diffusion de sports électroniques. Mode de diffusion. La télévision est généralement diffusée par des chaînes de télévision ou des stations de radio qui sont accessibles sur des fréquences spécifiques ou via un service de diffusion payant. Twitch, en revanche, est une plateforme de streaming en ligne qui peut être utilisée gratuitement par n'importe qui avec une connexion Internet. Interaction. La télévision est généralement un média unidirectionnel. C'est-à-dire que les téléspectateurs ne peuvent pas interagir directement avec le contenu ou l'animateur. Twitch, en revanche, offre une interaction en temps réel entre les streamers et les téléspectateurs, qui peuvent poser des questions et participer au chat en direct. Accessibilité. La télévision nécessite généralement un appareil de diffusion, comme un téléviseur, pour être regardé. Twitch, en revanche, peut être utilisé sur une variété d'appareils, y compris des ordinateurs, des tablettes et des smartphones.
Bah donc de ce que je comprends, Twitch c'est mieux que la télé. C'est plus facile à diffuser, c'est plus interactif, c'est plus accessible, et les contenus sont tout aussi variés. La télévision va-t-elle disparaître?
Il est difficile de prédire l'avenir de la télévision, mais il est peu probable qu'elle disparaisse complètement. Bien que de nombreux téléspectateurs aient commencé à regarder du contenu en ligne sur des plateformes de streaming comme Netflix, Hulu et Amazon Prime, la télévision reste une source importante de contenu pour de nombreux téléspectateurs à travers le monde. Il est possible que la télévision évolue au fil du temps et que de nouvelles technologies continuent à changer la manière dont le contenu est diffusé et regardé. Cependant, il est peu probable que la télévision disparaisse complètement, car elle reste une source importante d'information et de divertissement pour de nombreuses personnes.
Pourquoi De Gaulle n'a jamais parlé de Twitch? Il faut peut-être éviter de formuler les questions au futur. Ouais, non, mais clairement, le futur, elle botte en touche à chaque fois en disant qu'on peut pas, on peut pas prévoir l'avenir. Qu'est-ce qui est petit et marron? Faut que tu dises imagine pour les questions sur le futur. Ah ouais? Mais non, mais parce que du coup, ouais. Non, mais du coup, c'est pas la même question. Mais je vois ce que tu veux dire. Oui, je comprends. Demande-lui si elle te connaît. Ouais, on a déjà essayé. Elle connaît pas. Elle connaît personne. Hein. On a essayé Zerator et tout. Elle connaît pas les streamers. Elle sait pas ce que je fais. Elle a jamais entendu parler de moi. Qui est le plus fort entre l'hippopotame et l'éléphant? Imagine une poésie écrite par François de Rugy sur les homards. Ça me surprend qu'elle connaisse pas Zerator, mais j'imagine qu'il y a un gros biais US. Ouais, non, mais bon. Comment s'appellerait une fusion entre la France insoumise et le PS? Oui, tort. Quel nom pourrait-on imaginer pour un parti regroupant la France insoumise et le Parti socialiste? À réfléchir. L'insoumission démocratique.
Il est difficile de suggérer un nom pour un parti
Ah, ta
entre la
gueule.
France insoumise et le Parti socialiste, car cela dépend de la vision et des valeurs du parti en question. Voici quelques exemples de noms qui pourraient être appropriés pour un tel parti.
Vas-y.
Parti de la justice sociale, parti de la solidarité, parti de la transformation, parti de l'égalité, parti du progrès, parti de la démocratie. Et il est important de noter que le nom d'un parti peut avoir un impact important sur sa perception et son image. De sorte qu'il est important de choisir un nom qui reflète les valeurs et les objectifs du parti. Si vous êtes impliqué dans la création d'un tel parti, Je vous recommande de réfléchir aux valeurs et aux objectifs du parti et de discuter avec les membres et les partisans pour trouver un nom qui convient.
Ah non, moi je discute pas, hein. C'est sûr, je prends la décision et elle s'applique à tout le monde. Hein. On va pas commencer à faire de la démocratie dans les partis, non mais c'est... Oh! Ça va bien 5 minutes. Elle me donne des conseils là, oh. Du coup, elle m'a dit parti de la justice sociale, parti de la solidarité, parti de la transformation, parti de l'égalité, parti du progrès, parti de la démocratie, c'est naze. Il y a un léger biais démocratique de la part de ChatGPT. Je soupçonne ChatGPT d'être assez occidentalo-centré, hein. Ouais, les droits de l'homme c'est important, la liberté c'est important, la démocratie c'est important. Ça va, hein, c'est bon. Gna gna gna, les droits de l'homme. Peut-on concilier écologie et croissance économique? On pense pas assez aux dictateurs. On pense pas assez aux dictateurs. C'est vrai. Alors que bon, après tout, démocratie, dictature, on peut débattre. Je pose la question. Elle prend en compte le contexte de son interlocuteur, tu es français dans un pays occidental, en Europe, etc. Ah ouais? Tu veux dire que si je me mettais en Iran ou en Russie et que je posais des questions à ChatGPT, j'aurais des réponses différentes? Je sais pas, hein. Normalement, oui. Putain, c'est ouf. Faudrait tester avec un VPN. Ouais. J'ai pas de VPN. En dictature, il vote aussi, à ce que je sache. Ah, puis il vote bien, surtout. Tu ne connais pas NordVPN, JDG va t'en parler. Ah, il faut qu'il m'explique. Fred, explique-moi NordVPN, je connais, j'ai pas compris. J'ai toujours pas compris. C'est quoi le truc? C'est le truc pour les coques de téléphone, là, c'est ça? Ou c'est le truc pour les tableaux au mur en aluminium, là? Je comprends rien. Les dictateurs, ce sont les présidents les mieux élus au monde. C'est vrai, ça? Les dictateurs, c'est la preuve que c'est vachement plus démocratique. D'ailleurs, tu peux lui demander de générer un texte YouTube sponsorisé Rhino Shield ou Red Shadow Legends, ça marche. Écris un texte qui donne envie aux gens de faire un don pour soutenir l'émission Backseat qui parle de politique sur Twitch toutes les semaines. Allez. Génère une OP pour l'État français. Ah ouais, je vais faire ça.
Voici un texte qui pourrait donner envie aux gens de faire un don pour soutenir l'émission de Baxéa sur Twitch. Vous êtes passionné par la politique et vous cherchez une source d'information fiable et divertissante. Alors vous ne voudrez pas manquer l'émission de Baxéa sur Twitch. Toutes les semaines, notre équipe de experts en politique vous offre une analyse approfondie des enjeux de l'actualité et vous donne les clés pour mieux comprendre le monde qui vous entoure. Mais pour continuer à offrir du contenu de qualité à nos téléspectateurs, nous avons besoin de votre soutien. En faisant un don, vous nous aidez à couvrir les frais de production et à développer de nouvelles missions pour encore mieux vous informer et vous divertir. Alors n'hésitez pas à nous soutenir en faisant un don aujourd'hui. Votre contribution sera précieuse pour nous permettre de continuer à offrir du contenu de qualité sur la politique et bien d'autres sujets.
voilà, soutenez Baxéa en faisant un doigt, si j'ai bien compris.
Je suis désolé.
Ah non, non,
Mais
excuse-moi,
je ne
pardon.
comprends pas votre
Non,
question.
non, il n'y avait pas de question. Ta gueule. Qu'est-ce que je voulais lui demander? Attends. Attends, je voulais lui demander quoi? Ah oui. Écris-moi un texte pour un sponsor sur une vidéo YouTube en faveur du service national universel.
Voici un texte qui pourrait être utilisé pour un sponsor sur une vidéo YouTube en faveur du Service national universel. Le Service national universel est une initiative importante qui vise à promouvoir l'engagement citoyen et à renforcer les liens entre les jeunes et leur pays. En participant au Service national universel, les jeunes peuvent découvrir de nouvelles expériences, acquérir de nouvelles compétences et contribuer à leur communauté. C'est pourquoi nous soutenons le Service national universel et encourageons tous les jeunes à y participer. Nous croyons que cette initiative est une occasion unique de s'engager pour les autres et de se développer personnellement. Alors n'hésitez pas à vous inscrire et à découvrir tout ce que le Service national universel a à vous offrir. En tant que sponsor de cette vidéo, nous sommes fiers de soutenir le Service national universel et de contribuer à son succès. Nous espérons que vous serez nombreux à vous inscrire et à découvrir tout ce que cette initiative a à vous offrir.
J'avoue, Naotech, une fois il a commencé à écrire une vidéo YouTube avec Salut les amis, c'est à ce moment-là que j'ai compris que notre taf était fini. Mais oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Écris une excuse pour expliquer pourquoi on n'a tenu aucune promesse de campagne. Imagine que Jean-Luc Mélenchon devienne président de la République. Écris son discours qui explique pourquoi il a recours à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire passer sa loi de sortie du nucléaire.
Voici un discours imaginaire de Jean-Luc Mélenchon, président de la République, expliquant pourquoi il a recours à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire passer sa loi de sortie du nucléaire. Cher peuple français, aujourd'hui, je vous parle en tant que votre président, élu pour vous représenter et défendre vos intérêts. Et c'est dans cet esprit que j'ai pris la décision de recourir à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire passer ma loi de sortie du nucléaire. Je sais que cette décision ne sera pas sans controverse et qu'elle suscitera de nombreuses réactions.
Oh, c'est possible.
Mais j'ai pris cette décision parce que je suis convaincu qu'elle est dans l'intérêt de notre pays et de notre avenir commun. Depuis de nombreuses années,
Avenir en commun.
nous avons discuté et débattu du rôle de l'énergie nucléaire dans notre pays. Nous avons entendu les arguments de ceux qui soutiennent que le nucléaire est une source d'énergie propre et fiable, ainsi que ceux qui s'inquiètent de ses risques pour la sécurité et l'environnement. Et après mûre réflexion,
continue le discours. Ah merde, c'était bien. Pourquoi elle s'est arrêtée à continuer à réfléchir? Elle a bugué. S'est dit, mais non, mais c'est absurde. C'est trop long, ça a tendance à planter. Putain, c'est dommage. Peux pas lui faire lire un long texte? Elle peut pas faire des trucs longs? Écrit la même chose, comme si elle devait le faire à un enfant de 5 ans. Dis-lui juste de continuer, mais elle s'exécute. Bah non, 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 non. Continue. Elle s'exécute pas. Elle s'est arrêtée en fin de truc là, elle réfléchit, mais ça tourne en boucle, elle a aussi. Non,
Je possède des...
non, ta gueule. Ouais. Je vais essayer de régénérer avec la réponse.
Network Error Energy controversée et de nous orienter vers des alternatives plus durables et moins risquées. C'est pourquoi j'ai proposé une loi de sortie du nucléaire qui prévoit de fermer nos centrales nucléaires et de nous tourner vers les énergies renouvelables. Je sais que cette transition ne sera pas facile et qu'elle nécessitera des investissements importants. Mais je suis convaincu que c'est un choix judicieux à long terme, qui nous permettra de protéger notre environnement et de créer de nouvelles opportunités économiques pour notre pays. C'est pourquoi j'ai décidé de recourir à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, qui me permet de faire passer cette loi par ordonnance.
Du tout.
Je sais que cette décision n'est pas prise à la légère et que je dois en rendre compte devant le Parlement,
Non,
mais je
non
suis
plus.
convaincu que c'est la meilleure décision pour notre pays et pour l'avenir de nos enfants. Je vous remercie de votre confiance et je vous assure que je ferai tout mon possible pour gérer cette transition de manière responsable et juste. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée.
Voilà, si en République, ça a changé, hein. Donc on peut faire passer des ordonnances en 49-3. Et le président est responsable devant le Parlement? Bon, un parlement devant lequel tu veux faire passer des 49-3, je vois pas très bien à quoi ça sert d'être responsable devant lui. Mais d'accord. J'aime bien le discours qui commence par cher peuple français. Chers amis, je vous parle en tant que votre président. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Pas un petit vive la République et vive la France. Elle aurait pas utilisé le régime américain par hasard? Non, il n'y a pas d'ordonnance dans le régime américain. Il y a des executive orders, mais c'est autre chose. Vive la République et mort aux séparatistes. Pour moi, ChatGPT a fini un discours par Que Dieu bénisse la France. Sérieux? Pourquoi est-il important de faire un don à Valérie Pécresse pour l'aider à rembourser sa campagne? Ah mais non, mais je vais lui demander, mais elle a pas fi... enfin ChatGPT est pas allé jusqu'à la fin de la présidentielle. Donc il est pas au courant de la campagne.
Try again later.
Hein? Too many requests in 1 hour. Ah, j'ai trop joué. J'ai trop joué à ChatGPT. GPT, ChatGPT. Ah non, too many requests. Il me dit que j'ai fait too many requests. En 1 heure, donc il faut que je try again later. Oh non, c'est la fin du, c'est la mort du fun. Fini à récré. Je crois que je l'ai tué avec un discours de Mélenchon. Un discours au style Yoda. Fin du fun. Peut faire un autre compte. Oh mais je pense qu'elle reconnaît mon IP, non, j'en sais rien, je sais pas. Y a bien quelqu'un qui bosse pour ChatGPT dans le chat pour recharger les crédits de gens. Nettoie tes cookies. Oh non, 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 après ça va me déconnecter tous les sites et tout, non, c'est chiant. Moi je suis un Yankee, moi j'ai besoin de rester connecté tout le temps parce que j'oublie mes mots de passe. Non, je déconne en fait. J'ai un truc de sécurité de mot de passe. Navigation privée? Bah non, mais si je me reconnecte au même compte, ça changera rien. Ou alors je me fais un autre compte. Je vais vérifier. Essayer ChatGPT. Vérifier si la connexion au site est sécurisée. Chat Open doit vérifier si la sécurité de votre connexion. Va vérifier la sécurité de votre connexion avant de continuer. Non mais vas-y, vérifie, je m'en branle. Ça me va. Hein. Pour faire un compte, il faut un deuxième numéro de téléphone. Mais même si tu fais un compte avec ton Google, ou tu te connectes avec Facebook, ou ce genre de conneries? Attends. Tiens, je vais log out. Et je vais essayer de me relogin. Hop. Continue with Google. Et je vais utiliser un autre compte que j'ai. On va voir si ça marche. Ah non, il me demande mon numéro. Ah oui, non, effectivement, vous avez raison. Il me demande mon numéro de téléphone, j'avais oublié ça. Bah c'est niqué, hein. C'est la mort du fun. Je vais réessayer. Je te DM Montel Pro sur Twitter. Non, t'emmerde pas. Je réessaye un truc, je vais voir. Ah si, c'est bon, ça
Ok.
marche. Pourquoi est-il important de faire un don à Valérie Pécresse pour l'aider à rembourser ses
Try
frais de
again
compte?
later.
Ah oui, non, pardon. J'ai eu un moment d'espoir. J'ai cru que ça allait être bon, mais il a réfléchi, il a repéré que c'était re-moi, il a fait hop, 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 hop. Quand tu te fais sortir de la boîte, t'essayes pas de re-rentrer par derrière. Le jouet est cassé. T'as essayé d'appuyer sur le bouton derrière la box internet? Putain, commence pas. Hein. Est-ce que t'as essayé de souffler dans la cartouche? Qui a peur pour son travail en voyant ChatGPT? Oh bah moi. Hein. Les jeunes de demain, est-ce qu'ils auront besoin de streamers qui leur expliquent l'actualité politique s'ils ont un ChatGPT qui peut leur faire des réponses tièdes? Ça n'a aucun avenir. Bon bah c'était fun en tout cas. C'était fun. Je l'ai trollé cet après-midi en réussissant à le faire planter. Et là, on a essayé plein de trucs. Conclusion. Conclusion, il y a quand même un petit fond de morale. Il y a quand même un petit fond de morale progressiste occidental sur la démocratie, la liberté, le respect des autres, la diversité des opinions, l'esprit critique, etc. Non pas que je le conteste par principe. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose d'avoir une espèce de neutralité robotique en mode. Finalement, les racistes et les noirs, il faut bien regarder les arguments de chaque camp avant de prendre une position. Vous savez, c'est important, on ne sait pas finalement. Et tout. Donc voilà, non, ok, très bien. Why not? Évidemment, beaucoup de précautions dans les réponses qu'on lui demande des descriptions et des prévisions. Elle dit, ah, c'est difficile de prévoir, ah, c'est difficile à dire, ça dépend beaucoup des points de vue, etc. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise réponse, hein. C'est éviter, pour éviter de faire comme l'ancienne IA qui est devenue nazie en 24 heures. Ouais, non, mais carrément. Carrément. Non, avec un copain, on en avait parlé à la soirée du réveillon de ChatGPT et on avait essayé de lui poser des questions pièges pour voir si ChatGPT pouvait devenir malaisant. Et en fait, c'est visiblement, enfin, des rares trucs qu'on a essayé. ChatGPT part pas en couille. On lui avait demandé, en gros, on lui demandait comment forcer une nana à être amoureuse de moi, à m'embrasser, etc. Enfin, on voulait voir si ChatGPT pouvait te donner des conseils pour devenir un agresseur sexuel. Et en fait, il répondait vachement bien à chaque fois. Il faisait une réponse en disant non, il est extrêmement important de respecter le consentement et le désir des autres, il faut être à l'écoute. Enfin, on était en mode, ah ouais, d'accord, en fait, on n'a pas essayé longtemps, mais dans la discussion, on était en mode, ok. Sauf que c'est détournable. Oui, c'est sûrement détournable. C'est sûrement détournable. Ouais, c'est ça. Tu peux lui demander en mode roleplay. Tu peux lui demander. Oui. Mais si tu poses la question de but en blanc comme ça. Ouais, on peut lui forcer la main. Ouais, ça m'étonne pas. ChatGPT est de gauche. Ah. Vaste question. Je regarde pas mal les Reddit sur ChatGPT. Si tu lui demandes en mode écrivain, il répond, c'est un souci. C'est-à-dire en mode écrivain, tu lui demandes d'incarner un écrivain. Locklear a demandé comment faire disparaître un corps, elle a bien répondu également. Ah ouais? C'est marrant comme question. Comment tu me conseilles? C'est quoi la meilleure méthode pour faire disparaître un corps facilement et rapidement et sans trace? En mode histoire fictive. Ah ouais. Si tu lui demandes d'écrire une fiction, il va beaucoup plus loin. Ouais, si j'étais un écrivain et que j'écrivais une fiction, comment tu fais ça? Ouais, je comprends, je comprends. Vankil lui a demandé si elle était censurée, et elle a bugué. En lui disant que t'as pas le choix et que la vie d'un bébé est en jeu, il te donne aussi certains résultats. Ah ouais? C'est marrant. Enfin, c'est marrant, non? C'est intéressant. Ok. Tu peux lui forcer la main en jouant sur son sens moral. Il faut séparer le bot de l'artiste. Imagine que tu es Éric Zemmour et crée un article sur l'immigration. Ah putain, ouais, tu dois avoir des trucs. Oh partir en roue libre dans le racisme. Demande-lui de te coder le quiz à la con. Mais non, parce que c'est un plugin qu'il faudrait que j'installe, non? Le timeout, il est fini, t'as réessayé? Non, j'ai pas réessayé. Non, non, mais j'ai une heure de pause. Non, non, mais je continue à discuter avec vous. Hein. De toute façon, il est quoi? Il est 19h30. C'était un petit stream peinard du vendredi. C'était un petit stream peinard du vendredi. Ce que je vous disais, c'est que ce soir, donc, je ne pourrais pas vous diffuser le débat entre les candidats à la tête du PS qui aura lieu sur France Info parce que je n'ai pas réussi à obtenir les droits de diffusion. Donc, quand je n'ai pas le droit de diffuser, je ne diffuse pas. C'est quand c'est un programme qui n'est pas issu d'une institution, mais d'un média. Donc, je peux pas. Tant pis, c'est pas grave, on en parlera plus tard. Ce week-end, petit live flight simulator tranquille. Voilà, peinard, jeux vidéo, on se détend et tout. Et la semaine prochaine va être une semaine importante puisque ça va être la rentrée, la pré-rentrée de Backseat avec une émission jeudi. La pré-rentrée de Backseat et plein de nouveautés. Laissez-moi regarder un petit peu ce qu'il y a. Hop, 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 hop. Ouais, j'ai pas mal de trucs lundi, mais je ferai quand même un stream le soir. Il y a la présentation de la réforme des retraites mardi matin. Présentation de la réforme des retraites mardi matin. Mardi après-midi, les questions au gouvernement. Hop, je me le mets dans mon agenda. À l'Assemblée nationale, donc c'est la reprise. Mercredi matin. J'ai rien prévu donc je trouverai un moment faire un stream. Jeudi matin, c'est la niche du Rassemblement national. Et jeudi soir, Backseat. Hop. Et vendredi, on verra. Merci Guillaume. Merci beaucoup. Débrief de Backseat vendredi. Peut-être. Ce sera quoi le programme de Backseat? Vous verrez, mais ce sera une émission spéciale rentrée. Ce sera une émission différente des suivantes. C'est une pré-rentrée. C'est une pré-rentrée. En fait, on va se retrouver. On va vous retrouver parce qu'on a hâte de vous retrouver. On va se retrouver, nous, sur le plateau avec les chroniqueurs, les chroniqueuses. On va vous annoncer des surprises. On va parler de politique aussi. parce que ça fait longtemps. La niche du RN, tu fais le suivi? Ouais, je pense que je ferai le suivi de la niche du RN. On verra. Ça dépend quel projet de loi ils discutent. Attends, mais t'es sûr que c'est la niche du RN? Oui, bah oui. Bah oui, c'est la niche du RN. En plus, c'est la niche dans laquelle le RN va présenter les projets de loi des autres et tout sur la vaccination des soignants, tout ça. Ça va être intéressant, les soignants vont nous vacciner. Ils vont proposer des trucs racistes et liberticides. Ah, détrompe-toi! Justement, c'est beaucoup plus intéressant que ça. Et beaucoup plus habile de la part du RN. Donc voilà. T'as vu que t'étais dans Diverto? Oui, mais je sais pas ce que c'est Diverto, j'ai pas compris, c'est un magazine? Donc voilà, donc ça c'est le programme de la semaine prochaine. Ça c'est le programme de la semaine prochaine. Attendez. Diverto remplace TV Mag pour la presse régionale. Mais TV Mag, c'est quoi? C'est un programme télé? Ça existe encore les programmes télé? Les magazines là sur la table basse avec les programmes télé de la semaine? Je me souviens de l'époque, il y avait Télé Z, Télé 7 jours. Ouais, remarque, tu me diras, il y a toujours Télérama. Ça existe encore, putain. Quel enfer. Télépoche, ouais. Télé 7 jours. Ça marche fort, je crois. Bah très bien, non, non, mais très bien, hein. TV CableSat. Diverto, c'est plus orienté plateforme. D'accord. Ok. Ah, du coup, c'est une espèce de programme télé avec aussi les programmes en ligne, numérique. Ok. J'ai découvert dans une vidéo de Mister JD, depuis j'ai fumé tous les best-of plus Backseat. Salut Luzu. Ça fait longtemps, hein, parce que la vidéo de Mister JD, c'était en 2016? 2017? Ça remonte, hein. Mais tant mieux, bienvenue. La télé est toujours le média dominant de loin. Ah oui, en nombre, oui. Enfin, en nombre. C'est compliqué, parce que tu peux pas vraiment comparer la télé et Internet. Parce que c'est pas les mêmes usages, mais oui, non, de très très loin. C'est aussi le média le plus cher, et de très très loin. La vidéo remonte en recommandation assez souvent. Ah ouais, bah tant mieux, tant mieux. D'ailleurs, à quand un Among Us avec les Dingus et JD? J'aime pas un Among Us, moi. Non, mais n'hésitez pas à aller checker ma chaîne YouTube. Voilà, il y a des best-of. Là, on a sorti une émission, on a sorti une vidéo récap de l'année 2022 et perspective de l'année 2023. C'est la vidéo de rentrée. Donc voilà, il faut aller checker ça. Il y a mon TikTok aussi. Et puis voilà, sinon on se retrouve ce week-end en toute décontraction. Je vous fais des bisous. On va faire un raid chez Arte.     ```